Alors, je vous propose pour commencer ce cantique de consécration. Jean-Baptiste a été un homme consacré, on peut dire. Oui, Seigneur, c'est vrai que comme Jean-Baptiste, nous vivons à une époque où le monde t'oublie, un monde pauvre en vrai bonheur, et nous voulons quelque peu suivre ses traces d'engagement à ton service avant tout. Comptons sur toi pour être soutenu et capable, comme il était, de tous les sacrifices pour te servir, pour faire avancer ton plan, pour introduire ton Fils sur cette terre. Que son exemple puisse nous inspirer, nous enrichir ce soir. Veuille ouvrir nos yeux, ouvrir nos intelligences, pour nous conduire dans cette lecture, dans ces lectures, dans cette étude, et que ainsi nos âmes soient nourries pour être tes serviteurs dévoués, comme il le fut. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, l'histoire de Jean-Baptiste est une histoire assez connue. On va rapidement faire un petit survol de sa vie, de ce que l'on sait sur sa vie. On parlera un petit peu de son ministère, de son œuvre. Et ce qui sera le plus important, c'est ce que dont je parlerai à la fin, dans le chapitre 3, c'est de voir un petit peu ses qualités, en quoi il peut être un exemple pour nous qui vivons 20 siècles, voire presque 21 plus tard. Et à la fin, donc mon exposé va durer environ 45 minutes, et à la fin, je vous montrerai un petit montage que j'ai fait avec quatre personnages actuels, dont vous connaissez certains, qui, par certains aspects, ressemblent un peu à Jean-Baptiste, mais avec plus ou moins de réussite, je dirais. Voilà. Ah, je reviens en arrière.
Non, prendre les plans, c'est bon.
Ah, c'est le plan que tu veux.
Alors, avec la photo d'abord, et puis un truc...
Ah, il est beau, là, hein, Jean-Baptiste.
Ah, il est même un peu... il est fort.
Il est idéalisé, là.
Voilà, et puis la suivante avec le plan, c'est pas mal. Comme ça, on comprend bien.
D'accord.
Merci.
De rien. Alors, ceux qui sont allés à l'école du dimanche ont appris cette histoire. Hein. Donc, voilà sa naissance. Donc, on peut dire que la vie de Jésus et la vie de Jean-Baptiste sont quasiment parallèles, avec un petit décalage de 6 mois au début et puis de peut-être 1 an et demi à la fin, puisque tous les deux sont nés, donc si on rectifie la petite erreur du calendrier grégorien, aux environs de moins 5 avant Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, Jean-Baptiste naît un petit peu avant le Seigneur Jésus, donc 6 mois plus tard environ, et le Seigneur a été crucifié en l'an 30, et on pense que Jean a été décapité en l'an 29. Donc, voilà, les événements qui nous servent de repère, c'est la rencontre entre Élisabeth, enceinte de 6 mois, et Marie, à qui l'ange vient de révéler qu'elle va être enceinte également, ce qui nous est raconté dans Luc chapitre 1, verset 26. Donc, vous voyez, ça, c'est le début. Hein, et donc, ils vont naître à 6 mois de décalage. Toute l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, c'est le chapitre 1 de Luc. Hein, ça, c'est entrecroisé un petit peu avec la naissance de Jésus. Vous connaissez la suite. Donc, enfin, les circonstances, plutôt. C'est donc un fils de Zacharie et d'Élisabeth qui sont assez âgés. Zacharie, qui est chargé de présenter le parfum dans le temple, va avoir une vision d'un ange qui lui annonce qu'il va être père. Et il a peine à le croire. Et donc, un petit peu pour sanctionner ce manque de foi, il va devenir muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et donc, effectivement, peu de temps après, Élisabeth, sa femme, va être enceinte. Elle rencontre à ce moment-là Marie, quelque part dans la montagne de Juda. C'est l'occasion du chant de Marie, le Magnificat. Et puis, donc, va naître Jean-Baptiste. Alors, Zacharie est toujours muet, mais il va demander par écrit qu'on l'appelle Jean. Voilà. Et à ce moment-là, il va retrouver la parole. Il va à ce moment-là bénir le Seigneur. Il loue Dieu. Donc, tout ça, c'est toujours Luc chapitre 1er. Et donc, ce jeune garçon, comme lui avait dit l'ange, va être nazaréen, c'est-à-dire qu'il va être consacré à Dieu. On ne va jamais lui couper ni les cheveux, ni la barbe. Il ne va pas boire de vin, ni de boisson forte. Donc, pas d'alcool. Voilà pour la naissance. Son ministère va ensuite commencer une trentaine d'années plus tard. Donc, ça, c'est le début de Luc chapitre 3, puisque chapitre 2, c'est plutôt axé sur la naissance de Jésus. Donc, on est dans la 15e année de Tibère, ce qui correspond à l'an 26. Hein. Donc, c'est un petit peu avant le ministère de Jésus, vous voyez. Voilà, le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus se croisent à peine, puisqu'ensuite, Jean-Baptiste va être mis en prison. Alors, on a des repères. Hein. Donc, Luc chapitre 3, verset 1er. Et ensuite, quand Jésus choisit ses disciples, en Matthieu 11, versets 1 et 2, on nous dit que Jean-Baptiste est déjà en prison. Donc, ça veut dire que les deux ministères se sont à peine croisés. Donc, il est appelé à 30 ans, il va prêcher la repentance. Il encourage, il exhorte le peuple d'Israël à se repentir aux abords du Jourdain. Et il pratique le baptême en signe de repentance. Il est vêtu de poils et il se nourrit de nourriture sauvage, des sauterelles et du miel sauvage. Entre-temps, il a aussi une intervention auprès d'Hérode. Il a une certaine audace. Il va reprocher à Hérode son adultère avec sa belle-sœur. Et puis, c'est sans doute un petit peu avant qu'il rencontre Jésus, puisque au moment où il va rencontrer Jésus, il va le baptiser. Et très vite après, il va s'effacer, hein, puisque ses disciples vont se mettre à suivre Jésus. Donc là, on est, si vous voulez, vers la fin du chapitre 1 de Jean. Et donc, ça va être, à ce moment-là, il est jeté en prison, donc on s'approche de son martyre. Donc, vous voyez, toujours les repères chronologiques, la fin de son ministère un peu avant le choix des disciples, et ensuite, il va être décapité dans un récit qui est placé juste avant la première multiplication des pains, hein, par exemple en Marc 6. Voilà, donc on est déjà dans le début de l'an 29. Donc on est finalement à un moment où le ministère de Jésus est bien avancé. Voilà les circonstances de sa mort, donc il est en prison, et puis voilà, c'est, vous connaissez l'histoire, c'est l'anniversaire de Hérode. La fille de sa concubine, on va dire, Hérodias, qui s'appelle Salomé, va danser devant Hérode, il va être charmé, et donc il va lui promettre de lui donner tout ce qu'elle veut, et puis donc Hérodias, qui n'est pas très contente évidemment d'entendre les reproches que Jean-Baptiste fait à Hérode, lui dit, ben écoute, demande à la tête de Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, et donc on va couper la tête de Jean-Baptiste et lui apporter sur un plat. Et c'est la fin de ce martyr, donc, qu'est Jean-Baptiste. Voilà pour sa vie. J'ai fait rapidement parce que c'est quand même des choses assez connues. Alors, son œuvre, ça a été un prophète, un grand prophète, on peut dire aussi le dernier. Il a eu un ministère auprès des Juifs et ensuite il a eu un ministère auprès de Jésus. On peut dire que Jean-Baptiste a été annoncé par l'Ancien Testament, c'est ça qui est particulier. C'est quand même une place importante. Il est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. » Voilà, il y avait un homme qui devait venir et qui devait préparer le chemin pour la venue de Dieu sur la terre, ce qui est assez étrange pour un lecteur de l'époque, mais qui s'explique évidemment lorsque Jésus vient. Et Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, dit bien aussi, « J'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Donc, vous voyez, toujours devant le Seigneur, devant Dieu. Et tout à la fin de Malachie, on lit que « Je vous envoie Élie, le prophète. Avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, il fera retourner le cœur des pères vers les fils. » Donc, il a une sorte de ministère de réconciliation. « De peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. » Cette venue du Messie est une sorte de dernière chance, qui sera après lui, est une sorte de dernière chance pour le peuple d'Israël d'être restauré. Donc il prépare la venue de l'Éternel. Alors ça aussi, c'est quand même quelque chose d'étrange pour le lecteur de l'époque. Et il est une sorte de nouvel Élie, de nouveau Élie qui va prêcher la réconciliation. Alors, voilà, c'est confirmé dans Matthieu. Jésus reconnaît la qualité de Jean-Baptiste. Il le fait correspondre à celui qui avait été annoncé. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allé voir les déserts, un prophète ?»« Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager. » Donc Jésus confirme qu'il est bien celui qui a été annoncé. Donc Jésus la reconnaît comme le reconnaît comme le messager et aussi comme le plus grand des prophètes. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. On verra tout à l'heure pourquoi. Celui-ci est Élie. Alors là, ça pose quand même une question un peu légitime. Serait-il une réincarnation de Élie ? Alors, bien sûr, non. C'est simplement que, comme c'est expliqué, il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà, il a les qualités de Élie. Il est animé du même esprit qu'Élie. C'est pour ça qu'il est une sorte de résurgence, mais spirituelle, de Élie. Et la Bible dit bien qu'il n'y a pas de réincarnation, puisque Hébreux 9 nous dit « Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Après la mort, le jugement. » Donc, nous, chrétiens, nous ne croyons absolument pas à la réincarnation. Alors, quel est le statut de ce prophète, de ce plus grand des prophètes ? Donc, Jésus dit bien qu'il n'y en a aucun de plus grand que Jean-Baptiste, mais que le plus petit, le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oui, ça s'explique, parce qu'il appartient encore, on peut dire qu'il appartient d'une certaine manière à l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, et que avec l'arrivée du christianisme, de l'Église, le statut des chrétiens est plus élevé que celui des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont le peuple de Dieu. Nous, nous sommes plus que ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc lui, on peut dire qu'il est le dernier représentant de cette époque où Israël est le peuple de Dieu, mais depuis, les enfants de Dieu, les chrétiens, sont dans une position, bien sûr, plus privilégiée. Et on peut dire que l'Église est l'épouse du Christ, donc celui qui a l'épouse est l'épouse, c'est-à-dire celui qui a l'Église, c'est le Christ, mais l'ami de l'épouse, c'est-à-dire Jean, qui assiste et l'entend, est tout réjoui à la cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Voilà. Même si Jean-Baptiste a été très proche du Seigneur Jésus, même s'il a annoncé, la part des chrétiens et donc de l'Église est plus élevée, plus proche du Christ que celle de Jean-Baptiste. Moins important que l'époux, alors vous voyez, il se rabaisse hein, d'ailleurs au passage. Je suis plus moindre que l'époux et je suis même moins privilégié que l'épouse. Alors, quel est son message à Jean-Baptiste ? C'est avant tout la repentance. Voilà ce qu'il dit en Luc 3. « Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. » Ça, il le dit à tout le peuple d'Israël. Voilà, « Repentez-vous, il prépare le chemin du Messie. Il faut que le peuple d'Israël soit dans un bon état pour accueillir son Messie. » Et alors ensuite, il va donner des conseils particuliers à certaines catégories. « Que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a pas. » Il appelle à la générosité, au partage. Il y a des publicains qui viennent, ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné, ne profitez pas du système. Il parle même aux soldats, ne commettez pas d'extorsion, n'accusez pas faussement, contentez-vous de vos gages, vous voyez, ne faites pas de pillage. Donc il a toute une vision du rôle de chacun. Et donc également, il aborde des questions morales, puisqu'il reproche à Hérode, alors il fallait le faire, hein, c'était quand même le roi, d'avoir la femme de son frère. Donc, il dénonce l'adultère du roi. Et donc, ensuite, son deuxième message, à part cette idée de la repentance et d'une vie bien réglée, c'est de dire que voilà, il y en a un qui vient après moi, et celui-là, c'est le Messie. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, duquel moi, je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales, lui vous baptisera de l'Esprit-Saint et de feu. Il annonce la venue de quelqu'un qui sera plus grand que lui. Et c'est confirmé encore dans un autre passage. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance. On est d'accord, on en a parlé. En rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé là de déjà deux baptêmes. Donc, il y a le baptême que pratique Jean-Baptiste. Et puis, il dit que Jésus va baptiser de l'Esprit-Saint et de feu. En réalité, il y a au total sept sortes de baptêmes dans le Nouveau Testament. Si on les passe en revue, qui sont en tout cas mentionnés dans le Nouveau Testament, même si le premier se situe dans l'Ancien. Donc, il y a le baptême avec Moïse, qui est mentionné en Corinthiens 10. C'est tout simplement le passage dans la mer Rouge. Ensuite, il y a le baptême de Jean-Baptiste, c'est celui dont on est en train de parler. Ensuite, Jésus aussi, au début de son ministère, baptise des disciples. Il y a ensuite le baptême de l'Esprit, qui va avec le baptême de feu. Il me semble que le baptême de l'Esprit se produit historiquement en acte 2, c'est la descente du Saint-Esprit dans l'Église. C'est... Vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours, hein, acte 1, je crois. Et ceci nous est rappelé en 1 Corinthiens 12, où vous avez été baptisés pour être un seul corps. Vous avez été baptisés de l'Esprit pour être un seul corps. C'est les deux seules fois où vous avez mentionné cet événement du baptême de l'Esprit. Donc pour moi, le baptême de l'Esprit, c'est un événement historique qui a lieu au début de l'Église, qui concerne toute l'Église, qui fait que maintenant, l'Église est habitée par le Saint-Esprit. Quand le chrétien reçoit le Saint-Esprit... Alors, on peut l'appeler baptême de l'Esprit si on veut, mais je ne pense pas que ce soit le mot utilisé par la Bible. Voilà. On parle plutôt du sceau du Saint-Esprit ou d'avoir reçu l'Esprit-Saint. Et puis, bien sûr, il y a le baptême chrétien, le baptême au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le baptême qui signifie qui est un petit peu un témoignage de la nouvelle naissance. Donc, il ne faut pas mélanger tous ces baptêmes. Hein, et il faut se dire que celui qui nous concerne le plus, c'est quand même le baptême au nom de Jésus, le baptême chrétien. Le reste, alors je n'ai pas parlé du baptême de feu, hein, baptême de feu. Alors c'est vrai qu'il y a les langues de feu en acte 2, mais je crois que l'idée, si on regarde dans Jean 16, à partir du verset 8, c'est que c'est l'idée que le feu, c'est le jugement, hein, et le Saint-Esprit agit en direction du monde pour le convaincre de justice et de jugement. C'est ce qui amène la conviction de péché dans le monde. Et là, envers les non-chrétiens, on peut dire, le Saint-Esprit est comme un feu qui les amène à la repentance. Voilà, donc on va retenir les trois principaux, hein, parce que c'est le plus important. Ne confondons pas le baptême de Jean, qui symbolisait la repentance pour accueillir le Messie, qui a pris fin avec le ministère de Jean, avec le baptême du Saint-Esprit, qui est un événement historique qui a lieu une fois pour toutes, à mon sens, en acte 2, et qui est rappelé en 1 Corinthiens 12. Hein, voilà. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, c'est-à-dire... Les premiers chrétiens, à partir de ce baptême de l'Esprit, ont commencé à former le corps de Christ. Et ce corps se complète ensuite par les nouveaux convertis. Mais on ne peut pas vraiment parler d'un baptême du Saint-Esprit à l'arrivée de chaque chrétien. Et puis, le baptême chrétien, voilà, qui symbolise une sorte de mort et résurrection avec Christ. Hein, c'est vivre d'une vie nouvelle, comme c'est expliqué dans Romains 6. Hein, c'est comme entrer dans la mort, ce bain qui est comme un symbole de la mort, et ensuite renaître. Donc ça symbolise la nouvelle naissance, c'est pour ça qu'on le pratique au moment où une personne se convertit. Alors ensuite, son ministère direct envers Jésus, donc c'est, je l'ai dit, de l'annoncer, il y en vient un plus grand après moi, il annonce sa venue, puis il va l'identifier, donc quand il le rencontre auprès du Jourdain, il le reconnaît, il dit, voilà, il voit Jésus venant à lui, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis ensuite, il va le baptiser. Alors c'est une scène assez surprenante parce que, évidemment, ce baptême signifie la repentance, d'où la gêne de Jean-Baptiste qui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dit, écoute, il nous faut accomplir toute justice. Donc il le fait. Donc Jésus prend en apparence une place parmi les pécheurs, si on veut, qui auraient besoin de la repentance. Et à mon sens, c'est pour ça qu'aussitôt, hein, aussitôt, le ciel s'ouvre et Dieu dit, celui-ci, alors on voit le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe, pas comme un feu, comme une colombe avec douceur, parce qu'il n'y a aucun péché en lui. Et on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ne vous y trompez pas, cet homme qui prend la place parmi les pécheurs n'est en aucun cas un pécheur, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, donc il le reconnaît aussi comme fils de Dieu, c'est un pas supplémentaire, l'agneau de Dieu, mais aussi le fils de Dieu. Et puis à ce moment-là, c'est la suite du récit de Jean 1, ben les disciples qui suivaient Jean-Baptiste se mettent à suivre Jésus. Donc il va laisser partir ses disciples avec lui. Hein, c'est pas rien, parce qu'il avait quand même, il avait des disciples, il avait convaincu beaucoup de juifs, son message avait convaincu, et il va les laisser, il va s'effacer et laisser partir tous ses disciples à la suite de Jésus. Alors résumons un petit peu les qualités de Jean-Baptiste. Première chose, donc c'est un Nazaréen. C'est ce qui a été annoncé à Zacharie au début du chapitre 1 de Luc. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et donc, ne pas boire de vin ni de cervoise, c'est la part des Nazaréens. C'est une allusion à Nombre, chapitre 6. Donc, il y avait trois choses que ne devait pas faire le Nazaréen. Donc, un Nazaréen, c'était un jeune garçon qui était consacré à Dieu. À partir de ce moment-là, de toute sa vie, il ne devait pas boire d'alcool, donc ni vin ni boisson forte. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il ne coupait ni ses cheveux ni sa barbe. Et troisième chose, qui est mentionnée en Nombre 6, c'est qu'il ne devait pas avoir de contact avec un mort. Voilà. Alors, c'est intéressant, ces trois symboles, hein, on va dire, je vais essayer d'en faire une interprétation symbolique. Le fait de ne pas boire d'alcool, alors ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas boire d'alcool, hein, même s'ils doivent en boire un petit peu, mais pas trop. Hein, c'est pas l'alcool qui pose problème, c'est l'ivresse. Hein. Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin ». Je crois que ça symbolise, c'est quelque chose de légitime auquel il renonce finalement, c'est l'idée du renoncement. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de service chrétien sans un certain nombre de renoncements. À un moment donné, servir Dieu peut coûter. Et Paul disait, en tout cas, lui, il avait totalement renoncé, « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Voilà, on peut dire l'engagement total. Hein, il est prêt à tout perdre, Paul. Il le dit, hein, « Je suis prêt à mourir. » Voilà. Donc, voilà la qualité du serviteur. Première qualité du serviteur, il est capable de renoncement. Deuxième chose, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. D'après 1 Corinthiens 11 nous explique que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui. C'est bien comme ça que c'est dit. Et donc, je pense que cette longue chevelure et cette longue barbe étaient plutôt un déshonneur, en réalité, pour le Nazaréen. Ça semble vouloir symboliser le fait qu'il accepte la honte. Et là aussi, le chrétien, pour être un témoin efficace, parfois, il faut qu'il accepte l'opprobre, qu'il soit capable d'être mal vu, mal considéré. Je crois que c'est ça que ça symbolise. Et Paul le dit aussi, « Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous le supportons. Calomniés, nous supplions. Nous sommes devenus les balayeurs du monde et le rebut de tous. » Vous voyez, Paul, il assume ça. Il est tellement engagé pour Dieu que, voilà, ben, si on se moque de nous, ben, on l'accepte. C'est comme ça. On fait avec. On vit avec, pourvu que le Seigneur, lui, nous approuve. Et puis, troisième chose, ne pas toucher un mort. Alors, ça symbolise certainement une séparation vis-à-vis de ce qui est mort, donc sous-entendu des non-chrétiens. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais être en contact avec des non-chrétiens, ce serait absurde, mais c'est plutôt une séparation morale. Et il est bien dit, en 2 Corinthiens 6, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incrédules. » C'est-à-dire, attention à ne pas être dans un degré d'association et de collaboration et de dépendance vis-à-vis des incrédules qui pourraient vous entraîner à faire des choses qui ne sont pas selon Dieu. Hein, c'est ça l'idée. Il y a un joug, alors vous connaissez peut-être un joug, hein, c'est une sorte de pièce de bois qui permet d'attacher deux bœufs. Quand vous êtes sous le joug, vous n'allez pas partir chacun de son côté. Vous devez toujours partir dans la même direction. C'est le cas dans le mariage, mais c'est le cas aussi dans certaines formes de coopération. Et il faut faire attention à quoi on s'engage avec des non-chrétiens, parce qu'ils pourraient nous amener, à un moment donné, dans une direction qui n'est pas conforme à nos convictions. Donc, aussi, pour être un serviteur efficace, il faut maîtriser son degré, je dirais, de coopération et de lien avec les non-chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on les fuit, qu'on les considère comme sales, quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça, mais c'est qu'on fait attention à nos associations. Ça s'applique, bien sûr, dans le mariage. Dans le choix d'un conjoint. Deuxième chose, je vais faire encore du symbolisme, c'est son vêtement, là. Il a un vêtement un peu bizarre. Hein. Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour de ses reins. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors, j'aime chercher, trouver dans ses habits des symboles. Bon, le chameau, vous savez à quoi ça sert, un chameau, hein. Ça sert à transporter des fardeaux. Voilà. C'est sa bosse. C'est le cas de le dire parce qu'il a des bosses en plus. Je n'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, il va transporter des poids. Et alors la ceinture, c'est ce que vous allez mettre, si vous avez une robe en tout cas, pour pouvoir courir plus facilement. C'est-à-dire que c'est l'idée de retenir les habits pour être efficace, pour être vraiment disponible pour combattre, pour courir, pour marcher, pour travailler. Hein, sans ceinture, vous êtes un peu trop cool là, c'est pas facile. Donc j'aime voir dans ces deux qualités, dans ces deux habits, l'idée d'un bosseur discipliné. Voilà. Et à un moment donné, Jésus-Christ et puis l'Église a besoin de bosseurs disciplinés. Voilà. Des gens qui sont des chameaux avec une ceinture. Et également, autre qualité dans son engagement, c'est qu'il est désintéressé. En fait, le sens de son ministère, c'est surtout pas que les gens le suivent à lui. Hein. On le voit au moment où Jean reconnaît Jésus, il le recommande, on peut dire. Et les deux disciples entendirent parler et ils suivirent Jésus. De par son message, les gens le quittent et suivent Jésus. Vous voyez ? Donc, ça montre quelqu'un qui ne cherche pas à attirer des disciples après lui, mais qu'il cherche à amener à Jésus. Et c'est ça aussi le sens de tout service chrétien. Ce n'est pas de nous rendre agréables aux gens et de les fidéliser à notre compagnie ou à nos services, c'est de les mettre en lien avec Jésus. Contrairement au loup redoutable dont il est question en acte 20, que dénonce Paul, dont il dit « Il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'enlèvera d'entre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. » Et ça, je trouve que c'est un indice très important pour reconnaître quelqu'un qui n'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Est-ce qu'il cherche à améliorer notre relation avec Jésus-Christ ou il cherche simplement à nous fidéliser à sa présence ou à son enseignement? Ça, c'est très important. Deuxième grande qualité, c'est son humilité. Alors, quand on lui pose des questions, on lui demande s'il est Élie. Alors, on s'attendrait à ce qu'il réponde oui, parce que, en tout cas, Jésus, lui, l'a bien identifié comme étant ce fameux Élie qui devait venir. Et alors, la réponse de Jean-Baptiste, elle nous surprend. Il lui demande « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils dirent donc « Qui es-tu ? » afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. » Vous voyez, Élie, c'est un petit peu sa carte de visite, c'est un petit peu son statut. Et être la voix qui crie dans le désert, c'est son travail. Et voilà quelqu'un qui pense qu'il est uniquement préoccupé par sa mission et non pas par son statut. Voilà. Est-ce que c'est comme un pasteur, on pourrait dire, est-ce que c'est ce qui est important, c'est son étiquette de pasteur ou est-ce que c'est le ministère pastoral qu'il exerce? Voilà. Il dit, je ne suis pas Élie, mais je fais le job d'Élie. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et c'est important aussi ça, qu'un service chrétien ne soit pas pour nous une sorte de statut, de casquette qui nous glorifie, mais quelque chose qui nous absorbe et qui est une activité dans laquelle on veut se consacrer. Et donc, il dit ensuite, bien sûr, de Jésus, il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Ça, c'est une très, très belle phrase qu'on pourrait tous s'approprier dans notre vie. Et j'appellerais ça du fair-play. Alors, je vais donner quelques exemples de fair-play. C'est le joueur qui sort, vous savez, à la fin du match et qui est remplacé. Voilà. Alors, le fair-play, je le trouve, c'est une notion pour moi parfaitement biblique parce que, alors, je parle sous couvert de Guillaume, il dira s'il est d'accord. Je trouve qu'on a le mot fair-play en Philippiens 4, verset 5, lorsqu'il écrit, en tout cas dans la version d'Arby, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Alors, c'est le mot « épiekès », et avec une note qui nous dit, explique bien que c'est le fait de ne pas insister sur ses droits. Voilà. Hein. Il y a aussi l'idée un peu de recul, de hauteur, de vue, qui fait qu'on a du détachement, finalement, par rapport aux choses. Voilà. Et je trouve que le mot fair-play, qui est un mot anglais, serait tout à fait convenable en Philippiens 4, verset 5. Que votre fair-play soit connu de tous les hommes, avec plusieurs aspects. Alors, l'aspect de Jean-Baptiste, qui est un peu l'aspect du joueur de football qui va sortir à 5 minutes de la fin du match. Vous savez qu'en général, ça les fait râler, parce qu'ils avaient bien envie de finir le match et même de marquer, surtout. On les sort parce qu'ils sont trop fatigués et on fait rentrer un joueur frais. Et là, ça râle un peu, ça grince un peu, en général. Jean-Baptiste, lui, il sait que c'est le moment de sortir. Et celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de lui délier la sandale, c'est-à-dire de lui chausser les crampons. C'est ce qu'il dit, en gros. Voilà. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. Un autre exemple de fair play, c'est Abraham. En faisant encore une comparaison sportive, il va laisser à Lot, son neveu, le choix du terrain. Ça, au début, on choisit le terrain. Bon. Eh bien, Abraham dit à Lot, « Si tu prends à gauche, j'irai à droite. Si tu prends à droite, j'irai à gauche. » Vous voyez encore quelqu'un qui n'insiste pas sur ses droits. D'autres exemples. Donc, voilà, il laisse à Lot choisir le terrain. Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Donc, il va se battre contre les ennemis, contre Madian, quasiment tout seul, avec 300 soldats. Et puis au dernier moment, voilà que les gens d'Éphraïm se réveillent un peu et viennent lui donner un coup de main à la dernière minute. Et effectivement, ils vont attraper les chefs. Ils vont attraper les chefs. C'est quand même Gédéon qui a fait le gros du travail, mais ils vont attraper les chefs. Et ils vont venir voir Gédéon en disant « Mais pourquoi tu ne nous as pas appelé avant ?» etc. Bon, en réalité, je pense qu'ils n'étaient pas trop motivés. Et Gédéon va avoir une réponse douce, qui va d'ailleurs les calmer, ça nous est dit à la fin. Il leur dit, qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous? Les grappillages d'Éphraïm ne sont-ils pas meilleurs que la vendange d'Abiézer? C'est-à-dire, les chefs que vous avez attrapés, vous, Éphraïm, ne sont-ils pas meilleurs que la victoire que j'ai remportée, moi, Abiézer, puisque c'est son autre nom. Voyez. Et donc, voilà quelqu'un, encore pour faire une comparaison sportive, qui va rejeter la victoire sur l'équipe. Et là aussi, vous voyez toujours la différence à la fin d'un match entre le joueur qui raconte un petit peu ses exploits ou celui qui va dire « Non, vous avez marqué 3 beaux buts, oui, mais enfin, il faut voir, on m'a fait les bonnes passes, toute l'équipe s'est dévouée, tout le monde s'est battu. » Vous voyez, vous avez les joueurs qui ont vraiment cet état d'esprit, puis vous avez ceux qui se font un petit peu mousser. Hein, voilà, ça fait partie du fair play. Et dans l'Église, bien sûr aussi, gardons toujours à l'esprit que nous vivons les choses en Église et il n'y a pas de quoi s'attribuer certaines choses. C'est un ensemble, on a tous besoin les uns des autres, du soutien les uns des autres dans la prière. Chacun apporte une qualité différente et sans les qualités des uns, celles des autres ne pourraient pas s'exprimer. Donc voilà, on forme une équipe, donc ça fait partie du fair play. Autre exemple, c'est Jonathan. Alors, vous savez, l'ami de David, le fils de Saül, ils se sont liés d'amitié. Pourtant, David était détesté par Saül, le père de Jonathan. Et donc, on lit en 1 Samuel 18, « Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait, le lui donna. Il lui offrit également les habits militaires, même son épée avec son arc et son ceinturon. » Vous voyez le symbole. Jonathan, qui légitimement pouvait espérer devenir roi d'Israël puisqu'il était le fils de Saül, cède à David ses habits royaux et son épée. Donc, quelque part, il va lui dire, tiens, c'est toi le capitaine, ça va être toi le capitaine. Je te donne le brassard de capitaine, hein, si on continue l'image sportive. Il ne court pas après la première place. Il accepte volontiers d'être le numéro 2. Numéro 2. Derrière David, chez qui il a su reconnaître des qualités supérieures. Et donc, il se contente, avec fair play, d'une position de numéro 2. Alors ça aussi, c'est pas dans la nature humaine, on aime bien les premières places, hein, mais lui, il se contente volontiers d'une position de numéro 2. Donc voilà des exemples de fair play biblique. Et puis enfin, son courage. C'est sans doute sa plus grande qualité. Il a peur de rien. Il va dire à un roi, il va reprocher à un roi sa vie conjugale. Si on regarde les 3 derniers présidents de la République, il y aurait peut-être eu de quoi dire, mais qui va oser aller dire quelque chose à un chef d'État, hein? Surtout pas moi, hein, je ne me serais pas permis. Enfin voilà, lui, il a osé, parce que Hérode, c'était quand même normalement quelqu'un qui était censé craindre Dieu, et donc ça devait pouvoir lui parler. Alors il va lui dire la vérité qui dérange. Il ose dire la vérité qui dérange. Et ce qui est surprenant, c'est que finalement, Hérode ne le déteste pas tant que ça. On le lit dans Marc 6, Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas. Car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Et quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe. Et pourtant, il aimait l'entendre. Et malgré le fait qu'il lui avait fait des reproches, Hérode est quand même impressionné par cet homme droit qui ose lui dire la vérité. Et je crois que ça, c'est très important pour nous aussi, avec nos amis non chrétiens, par exemple. Attention à ne pas être de ceux qui passent toujours de la pommade pour faire plaisir, parce que c'est mon ami, je ne vais jamais le contrarier. Parfois, il vaut mieux être un petit peu caustique de temps en temps. Si en tout cas, on vous demande votre avis, eh bien, voilà, il faut dire ce qu'on pense. Hein. Et je crois qu'on sera aussi écouté, voire respecté, parce que les gens vont trouver en nous des gens droits qui ont une ligne de conduite. Hein. Voilà. Proverbe 14, verset 25 dit « Le témoin fidèle délivre les âmes. » On peut rendre service à ses amis, parfois en leur disant des paroles qui blessent, qui font mal, parce que c'est la vérité. Alors j'arrive à la conclusion. Oui, Jean, dit Jésus, était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Jésus a donné vraiment ce beau témoignage de quelqu'un qui a été un flambeau, qui a fait briller sa lumière sans la cacher, sans la voiler. Il a dit aux Juifs, repentez-vous. Il a dit à Hérode ce qu'il pensait de lui. Et il a dit, voilà, Jésus, il est plus grand que moi et moi, je disparais. Voilà, quelqu'un qui a assumé totalement le message qu'il avait, même si c'était dangereux, même si ça ne le valorisait pas. Et donc, voilà une mission pour nous, chrétiens, d'être des Jean-Baptiste, c'est-à-dire des témoins courageux de la vérité. Mais attention, c'est un art difficile. Et donc, je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo avec des gens que je mettrai un peu dans cette catégorie, mais qui ne réussissent pas toujours. Attention, pour autant, nous chrétiens, alors voilà, imaginons des situations où on va devoir dire la vérité, on va devoir choquer un peu, on va devoir heurter, être rugueux, parce qu'il faut dire la vérité. Attention, pour autant, de ne pas être des écorchés vifs, c'est-à-dire des gens qui tirent sur tout ce qui bouge, qui ne sont jamais contents, vous voyez, qui sont toujours dans le reproche, qui ne reconnaissent jamais, qui ne sont jamais dans la nuance, qui sont toujours trop catégoriques, vous voyez. Attention, ça c'est les écorchés vifs, ils sont toujours sur la défensive, peut-être qu'ils se sentent agressés, voire persécutés, et donc ils deviennent eux-mêmes agressifs. Attention, ce n'est pas ça, Il faut garder une certaine sérénité, c'est fait avec sérénité. Ni provocateur, le but n'est pas de provoquer, le but est de ne pas bouger dans sa position, de rester droit dans ses bottes. Ce n'est pas le but de provoquer. Alors, j'ai mis ni sainte ni touche, hein, vous connaissez l'expression, c'est-à-dire là, ce serait celui qui, donne l'impression qu'il ne veut pas se salir, vous voyez, et qu'il dénonce des choses parce qu'elle heurte sa petite sensibilité chrétienne. Hein, ce n'est pas ça non plus, on doit assumer parfois d'être dans des situations un peu embarrassantes, voilà, mais on va dire les choses sans passer pour des gens, qui sont en train finalement de se protéger. Ce n'est pas ça l'idée, c'est qu'on fait passer un message pour protéger les autres, justement, parce qu'on les aime. Vous voyez, attention à ces petits dérapages possibles de gens qui ont un peu le profil Jean-Baptiste, mais c'est un petit peu faussé. Voilà, soyons simplement authentiques. Nous avons des convictions, il faut les assumer. Je dirais que la vérité est toujours bonne à dire, à condition que ça soit au bon moment.